c'est-à-dire le soir de la sortie d'Égypte elle-même, de la sortie de l'Égypte, l'événement. Alors, un certain nombre de mitzvot ont été données, que vous avez donc dans la parashat HaChodesh, qu'on a lu comme martyr ce Shabbat, vous aussi. Vous n'étiez pas là. Mais vous l'avez lu en Israël. Et il y a d'abord les mitzvot qui sont données, comme cela se fera le passage, la sortie, Pessah. Ça s'appelle Pessah de Mitzrayim. C'est l'araméen pour Shel, en hébreu, le Pessah de l'Égypte. Il y a Pessah, Shel Dor, le Pessah que l'on commémorera à chaque génération. Ça s'appelle Pessah Shel Dor. Alors voyez, tout de suite, dès le chapitre 12, et ça déborde sur le chapitre 13, on a une surprise. Et on va se remettre, comme d'habitude, dans ces problèmes au moment de l'événement. Les Hébreux sont en Égypte et ils reçoivent de Moïse les consignes qui ont été données dans le chapitre 12, la Parashat HaChodesh, tant à Moïse qu'à Aaron. Vous rappelez, vous avez appris pourquoi Aaron aussi et pas seulement Moïse. Bon, alors retenez qu'il y a une collaboration entre ces deux forces, celle que représente Moïse et celle que représente Aaron. Notez ça dans un petit coin, on va reprendre ça tout à l'heure. Ça, c'est important de l'étudier pour lui-même. Et voilà que donc Moïse transmet à tout le peuple le fait d'avoir à préparer le sacrifice de Pessah, parce que c'est dans la soirée que l'événement se produira. Ça, c'est Pessah de Mitzray. Mais voilà qu'en même temps, la Torah institue qu'à chaque année, il faudra faire Pessah en commémoration de Pessah de l'Égypte. Il y a donc deux mitzvot, deux ensembles de mitzvot très différents de nature, d'essence. Les mitzvot qui ont constitué le seder de Pessah de la sortie d'Égypte, l'événement. Et ça, c'est faire Pessah. C'est vraiment sortir du monde ancien, passer dans le monde nouveau. Et il y a donc les règles du rite de ce passage qui sont Pessah de Mitzrayim. Lorsque nous faisons Pessah de Pessah Shel Dorot, nous faisons une commémoration. C'est clair ? Qui s'appelle ? Je pense qu'on a appris peut-être avec Yosef Atour, le Zerer. Non, mais non, vous savez très bien que c'est le Zecher. C'est pas seulement un souvenir intellectuel, c'est un acte par lequel on rend de nouveau actuel quelque chose qui a été la commémoration et qui est la commémoration d'un événement du passé. Si j'ai que le souvenir intellectuel, je renvoie dans le passé l'événement dont je me rappelle. Donc, comment on dit, que je me rappelle. Okay. Je veux dire. Le fait de rappeler un événement du passé comme passé, ce qui est la définition de la mémoire intellectuelle, renforce son caractère de passé. C'est clair ? Ne vous trompez pas, là il y a un sujet important, c'est l'échec d'une tradition, lorsqu'elle rappelle les choses passées comme passées. Vous comprenez ? Tandis que le zecher, ça veut dire rendre présent quelque chose qui a été de l'ordre du passé. Quelle traduction française il vous a donné de zecher ? Bon, Zecher, ça veut dire d'abord donc le souvenir. C'est la traduction simple du dictionnaire. Zikaron, c'est la mémoire. Zecher, c'est le souvenir. Et donc, c'est le sens... comment dire ? Le sens qu'on emploierait, si on prenait pas garde, à la signification hébraïque. Les ma'an tizkor, c'est pas afin que tu te souviennes, dans le sens que tu te rappelles que ça s'est passé en ce temps-là, ce qui s'est passé. Okay ? En hébreu, ça a un sens beaucoup plus précis, positif. Et est-ce qu'il vous employez le terme de actualiser ? Ça veut dire rendre actuel. Okay ? C'est ça. Alors faites bien attention à cela. C'est le sens propre dans la catégorie hébraïque de ce terme-là. Un rite de commémoration, c'est pas que je me rappelle quelque chose qui s'est passé dans le passé en tant que c'était du passé. Ça, je le renvoie dans le passé. Okay ? Zecher, c'est l'inverse. Étant donné ce qui s'est passé dans le passé, je rejoue ce passé aujourd'hui. Et donc le rite est à l'échelle de la vie rituelle. Je ne veux pas dire spirituelle, mais vraiment rituelle, parce que ce sont des comportements d'actes. Le fait de rejouer l'événement. La définition est simple. Alors une question importante. Pourquoi ? Vous voyez l'étonnement que pouvaient avoir les Hébreux. Au moment de la sortie d'Égypte, Moïse leur dit, voilà comment on prépare le repas de sacrifice de Pessah, à travers lequel on va s'identifier comme les Hébreux sortant d'Égypte. Mais ce n'est pas un rite à ce moment-là, c'est vraiment l'événement. Okay? Et puis tout de suite, la Torah prévoit, et chaque année, vous allez commémorer cela par un zécher de ce qui va se passer cette nuit, et qui sera le seder de Pessah que nous faisons encore aujourd'hui. Okay? Oui, mais vous voyez bien la différence. Je vais essayer d'éclairer cela. Il y a un thème comme ça chez les Américains. C'est comment s'appelait le premier bateau qui est arrivé, le Mayflower ou machin.
Mayflower.
Et alors, je suppose que ça a dû rester comme ça chez eux. Ils ont un jour de commémoration qui s'appelle.
Thanksgiving.
Nahon. Qui a dit quoi? Mais il n'y a pas un dé à la fin.
Thanksgiving Day.
Nahon. Et alors. Les grandes anciennes familles fondatrices de l'Amérique du Nord, enfin des États-Unis, ont gardé le même repas, le même menu que le repas du Mayflower. Okay? Alors oui, ça n'a rien à voir avec Pessah. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Ou par exemple le 14 juillet. Je me rappelle que le 14 juillet 1700, peu importe, c'était 1800, non? 1789, il s'est passé ce qui s'est passé. Je ne sais pas, la France était enrhumée, alors il y a eu la prise de la Bastille. Mais il est bien évident que une telle conduite de commémoration n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un zécher. Le zécher, ça consiste au contraire à perpétuer, à rendre présent, à travers le présent, à l'échelle du rite, l'événement qui a eu lieu dans l'histoire. Alors ma question est très simple, pourquoi? Et pour bien y réfléchir, essayer de comprendre cet étonnement que pouvaient avoir les Hébreux. Et c'est là que je vais greffer la question de la Haggadah et donc la question qu'on ne dit pas une bracha sur la Haggadah de Pessah. Je veux dire, c'est une des questions qui n'ont pas de réponse. Mais je vais donc essayer de vous expliquer une réponse possible, mais ça, ne vous trompez pas, il n'y a pas de réponse. Okay? Le Mashiach nous donnera la réponse. Et ça y est, vous y êtes? Et le fait qu'il va falloir expliquer aux enfants ce qui s'est passé. Bon, et ça va vous aider un peu à comprendre. Alors, pourquoi il faut commémorer Pessah? Pessah de Mitzrayim, pourquoi il faut le commémorer dans Pessah Shel Dorot? Vous avez bien compris la question. Et en entendant bien que commémorer, c'est pas simplement se rappeler de quelque chose de passé comme passé. C'est le reprendre et le rejouer jusqu'à Tov. Ça y est, vous avez compris? Alors, quelle est la réponse? Ma? Oui, mais c'est dans mon pourquoi.
Qui revivent vraiment la chose, ils ne peuvent pas se souvenir de quelque chose qu'on n'a pas vécu, sauf s'ils le jouent.
J'ai pas dit jouer, hein, j'ai dit rejouer. Attention aux mots français exemplaires.
Ça sera sorti.
Hein?
Ça sera sorti.
Et derrière, ça va en même temps. Mais pourquoi? Ma question, c'est pourquoi?
Hein?
Mais pourquoi? Pourquoi il faut sortir?
Parce que au moment de la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël a trouvé sa liberté et il faut que chacun individuellement sorte de lui-même pour atteindre la liberté.
Mais c'est ma question. Parce que je vais mettez ça un peu en suspens. Hein. N'oubliez pas tout le détail de ce qu'on a vu. Je vais poser une autre question. Et que nous avions vu dans le cours de la Tfila au premier trimestre. Et là, je vous avais demandé de bien retenir cela lorsqu'on étudierait Pessah. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Bon. Et pourquoi la commémoration de l'histoire d'Israël ne commence pas avec l'histoire d'Abraham, mais qu'elle commence avec l'histoire de la sortie d'Égypte? Vous vous rappelez l'expression « Zecher Litziat Mitzrayim » dans la liturgie? Ken, vous vous rappelez de cela? Le fait que dès qu'on finit le Kriyat Shema avec le rappel de la sortie d'Égypte, on commence la Tfila. Vous vous rappelez, on a étudié ça au début de l'année. Alors, je reprends la question. Pourquoi ça commence pas avec Abraham? La sortie d'Abraham d'Ur Kasdim, c'est apparemment le vrai point de départ de notre histoire. La mutation d'identité qui fait qu'Israël est Israël, elle commence là. Alors, pourquoi on n'a pas un seder de Ur Kasdim? La geste d'Abraham, imaginez la religion qu'on peut inventer là-dessus, énorme. Okay? Et pourquoi la sortie d'Égypte? Oui.
Parce que l'Islam est effectivement
un. J'entends pas. Bien.
Parce que l'Islam est en effectif âme, qu'à partir de l'Islam d'Israël, à partir du moment où on l'appelle âme. C'est pas moi qui l'appelle âme.
Non, c'est juste. Ce que tu dis là, c'est une des raisons pour lesquelles le principe de la commémoration de l'histoire d'Israël, c'est la sortie d'Égypte et pas Abraham, parce qu'Abraham c'est un individu. On aurait fondé une mythologie sur le mythe d'un homme, okay, alors qu'à la sortie d'Égypte, une nation. Alors là, ça devient sérieux. Bon, et vous rappelez tout ce qu'on a étudié à ce sujet, c'est clair. Bon, mais c'est pas. Il y avait une deuxième réponse, c'est pas celle-là que j'attendais, c'est la deuxième. Qu'est-ce que tu veux dire?
C'est l'achèvement du processus.
Bon, ça y est, ça vient. Qu'est-ce que tu veux dire?
Ça n'a pas été une sortie finale. Il y a eu encore un problème des 100 ans de Israël.
Très bien, ben, c'est ça que j'attendais. Voilà. Pourquoi il y a un rite de commémoration? C'est parce qu'il s'agit d'un événement irréversible, mais qui n'est pas achevé. Alors il faut l'achever. Et là, vous avez la réponse à toutes vos interprétations. C'est clair? Alors que la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim est irréversible et achevée. Ensuite, nous verrons, dans toute l'histoire de la famille d'Abraham, la hantise des patriarches. Il ne faut pas revenir là-bas. Okay, vous vous rappelez? Par exemple, pour le mariage d'Isaac, surtout ne ramène pas Isaac de là où moi, Abraham, je suis sorti. S'il y a une femme pour lui là-bas, va-toi la chercher. À qui Abraham s'adresse?
Eliezer.
La catastrophe, lorsque Jacob va aller chez la... Et on verra dans la suite. Okay. Il est allé chercher une femme, il ramène quatre. Et alors, là, c'est bon, c'est notre problème. Vous voyez, la mutation d'identité qui fait qu'Abraham sort de Ur Kasdim, elle est irréversible, intégrée. Elle n'a plus à être commémorée. Si on devait la commémorer, ce serait le signe que ce n'est pas un commencement efficace. Réfléchissez bien à cela. Peut-être si vous apprenez ce matin rien que cette idée-là, c'est important. C'est-à-dire on aura à commémorer la sortie d'Égypte par le Seder de Pessah tant que ce qui était en question dans l'événement de la sortie d'Égypte, la libération des conditionnements sociaux, politiques, économiques, naturels, n'est pas achevée. Jusqu'au temps messianique, on réalisera la commémoration de la sortie de Pessah de l'Égypte. Et voilà pourquoi le mot de Zecher n'a pas seulement le sens de se rappeler d'un événement du passé. Okay? Je me rappelle la sortie d'Abraham d'Ur Kasdim, je sais ça dans ma mémoire. Mais je ne suis pas en question, je ne suis plus en question dans cette relation, parce qu'elle est intégrée, parce qu'elle a réussi, parce que c'est moi, parce que je suis déjà fils d'Abraham. Tandis que l'événement de la sortie d'Égypte est irréversible, mais il est remis en jeu dans l'histoire jusqu'à ce qu'il s'achève complètement. Jusqu'à ce qu'ils réussissent complètement. Vous y êtes? Et je vais éclairer ça tout de suite par un des derniers passages de l'Agada. Ouvrez votre Agada. Donnez-moi une Agada, je vous donne la page.
C'est exactement les
mêmes. Ça fait rien, je vais vous donner le texte, je vais aller rechercher. Alors, celle-là, c'est quel rite?
Ashkenaz,
d'accord. C'est le même texte, d'ailleurs, pour ce que je vais vous dire. Vous allez le voir à la fin. Vous l'avez à la page 54. Hassa aussi d'Ur Pessah qui il Hato. Donnez-moi un rite sfarad, je vous montre. Voilà, là où la page 56 en bas.
66.
Voilà. Alors, Hassal, Sidur, Pessah, Keil Chato, vous suivez avec moi? Hassal, ça veut dire est achevé. Chisul, ça veut dire achèvement. En hébreu moderne, ça veut dire liquidation. Quand vous avez des sols, Chisul. Vous l'avez appris ou à l'Ulpan? Le Hassel, c'est. D'accord. Bon. Alors, Hassal, Sidour, Pessah. Le Sidour de Pessah, suivez bien. L'ordonnance de Pessah. L'ordonnance du rite de Pessah, Sidour. Vous voyez, c'est le même mot que Seder. Okay. Hassal est achevé. Keil Chato, selon sa halacha, selon sa règle. Okay. Continue. Kechol. Pas par cœur. Hazal. Kechol. Mishpato vehukato. Selon son mishpato, son statut, son principe, vehukato et sa règle, sa loi. Bon. Et c'est là la phrase à laquelle je vais arriver. Keshem shezachinu lesader oto. Et de même que nous avons mérité lesader de l'ordonner comme rite, de le rejouer comme rite, de le ritualiser. Keshem, de même que. Kacher, ça revient au même. Kacher. Qu'est-ce que vous avez, Kacher ou Kacher? Non, non. C'est aussi Kacher. Alors, Kacher Zachinu. En principe, il faut dire Keshem chez Zachinu, mais c'est pas grave. Kacher Zachinu, de même que nous avons mérité. Les Sader Oto. Vous voyez le mot de Sidur, Seder, le verbe, les Sader. La Aroch Oto, c'est-à-dire de le disposer dans l'ordre du rite. Ken. Ensuite, Ken Niske, la Asot. Alors, traduit. Ken, Niske, Kensi, Niske, nous méritions, futur, la race de le faire vraiment. Vous voyez la différence? On attend un Pessah ultime et on se relie du Pessah de Mitzrayim à ce Pessah ultime par le Zecher qui nous mène jusqu'au moment où nous ferons le Pessah de la fin des temps. Ça y est, c'est clair? Et pour pas vous tromper, si vous avez des discussions avec des gens qui n'ont pas appris exactement comme vous, alors je vais vous préciser. Il y a un premier sens. C'est que le Pessah, vraiment, en tant que Korban Pessah, en tant que sacrifice de l'agneau de Pessah, ne se faisait que quand il y avait le temple. Et notre Pessah à nous, quand il n'y a pas le temple, c'est un zécher du zécher du zécher de Pessah du temple. Et la preuve, c'est qu'on prend à la place de l'agneau, Pascal pour la Ficoman, on prend de la Massa, qui remplace le temple. Vous savez. Et alors, donc il y a un premier sens dans ce poème, qui est que de même que nous avons eu le mérite de faire le Sidour de Pessah sans le sacrifice lui-même, que nous ayons le mérite un jour d'avoir le temple et de faire le Sidour de Pessah avec le sacrifice. La rasota pasah. Parce que c'est l'expression qu'emploie la Torah. Faire le Pessah, il s'agit du sacrifice. Ce premier sens est bien intégré. Alors, il y a plus profond. Il s'agit de l'événement lui-même, du passage du monde ancien au monde nouveau. Que nous, encore une fois, je cherche peut-être un mot en français plus précis. Je dis que nous rejouons au niveau du rite. C'est un acte, c'est pas du tout un symbole. Okay? C'est pas du tout symbolique. C'est avec le fait de manger la matzah. Qui est opératoire. Le fait de manger le Pessah, qui est opératoire. Et je reprends mon exemple du repas américain, là. C'est très symboliquement qu'il mange une dinde. Je crois que c'est une dinde qu'il mange. Okay. Selon le principe, qui se ressemble, ça semble. Okay. Mais... mais... Et c'est symbolique. Or, quand nous mangeons la matzah, eh bien, c'est pas du tout symbolique, on mange de la matzah, on mange pas un symbole. Je vous parlerai après de l'hostie chez les... l'hostilité. Mais, chez les gens hostiles. Après, je vous parlerai de ça pour indiquer un point qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire, c'est réellement que nous faisons Pessah, mais au niveau du rite, pas au niveau de l'histoire. C'est clair. Ne confondez pas symbole et rite. Symbole, c'est un mot tous les anciens vous diront que j'aime pas du tout prononcer, employer, comme il existe en français, alors j'ai oublié d'employer. C'est un mot hérétique. Okay. C'est un mot païen. C'est-à-dire, on va substituer une chose à une autre et une autre chose va symboliser la réalité. Et on va rentrer dans un monde de symboles qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Okay. Le terme qu'il faut employer, à mon sens, pour traduire l'hébreu, c'est le signification, pas symbole. La symbolique évacue la signification de la réalité. Et elle devient abstraite, elle devient mythique, elle devient païenne. Okay? Fais bien attention à ça, un symbole. Tandis que là, c'est réellement qu'on mange de la matzah. Par exemple, vous voyez, vous avez des juifs libéraux qui sont complètement coupés de la tradition réelle et qui ont des traditions. Ils se rappellent que leurs ancêtres sont sortis d'Égypte. Et quand leurs ancêtres sont sortis d'Égypte, ils mangeaient de la matzah. Alors symboliquement, sur la table, ils mettent de la matzah pour se rappeler que c'est joli, on explique aux enfants, vous voyez, nos ancêtres... Bon. Alors, bien sûr, le repas, on le mange avec du pain. C'est normal, un repas. Mais symboliquement, il y a de la matzah. Où est le problème? Ça c'est l'échec de la tradition. Avoir des traditions de ce genre-là, c'est vraiment l'échec de la tradition. La tradition authentique, c'est le zecher. Ça veut dire, je réalise, dans mon actuel, j'actualise l'événement que je commémore. Ma question a été, pourquoi il le faut? Parce qu'il faut l'achever, parce qu'il n'est pas achevé. Vous voyez ce que dit le... C'est un point de départ irréversible, mais il faut l'accomplir dans le sens total. Un indice que vous relirez à cela, c'est que lorsque les chrétiens ont prétendu que les temps messianiques étaient arrivés, ils ont déclaré la dernière Pâque de l'Égypte. Vous voyez comment ça va parallèlement? Et ils ont donné à la Pâque un sens radicalement nouveau qui est ce qu'ils font dans la messe. Vous savez, c'est un dérivé du Seder de Pessah. C'est clair? Où ils ont projeté une toute autre signification, mais en déclarant le temps qui a commencé à l'Égypte et qui devait nous mener au temps messianique est clos, puisque le Messie est arrivé soi-disant. Okay? Et par conséquent, à partir de maintenant, qu'est-ce que va représenter le Seder de Pessah? Un rite de communion théophagique avec leur divinité païenne. Et bien, vous savez d'ailleurs en quoi ça consiste ce rite? Ils bouffent du juif, comme on dit. C'est pas plus compliqué que ça. Ils disent ce qu'ils font. Leur le rituel est profondément cannibale théophagique. Vraiment, comme c'est nous qui sommes en question, il faut se méfier. Okay? On n'est pas en sécurité chez des gens dont le rituel du salut, ça consiste à bouffer du juif. Mais c'est ça qu'ils font. Ils vous le disent tranquillement, on n'entend pas. Bon, alors, nous revenons. Vous voyez ce qu'on peut faire avec des symboles? Symboles, priez pour nous. Bien, alors nous revenons donc à notre problème sur cette thèse générale, enfin ce thème général, que le Pessah de Mitzrayim doit être commémoré dans le sens du Zecher, et c'est Pessah shel Dorot, jusqu'à la dernière Pâque, jusqu'au dernier Pessah de Pessah shel Dorot, au temps messianique. Et à ce moment-là, qu'est-ce que sera le Seder de Pessah? Je ne sais pas si avec vous que j'ai étudié une fois un texte, sinon il faut que je le fasse encore cette semaine, il faudra faire des photocopies. À ce moment-là, nous avons un verset de Jérémie qui est très clair. À ce moment-là, on ne commémorera plus la sortie d'Égypte, ça deviendra le passé antérieur. On commémorera la sortie présente, celle que nous sommes en train de vivre, de l'exil présent. C'est dit en clair. On a étudié ce texte? Non. Vous allez me donner une Maseret Brachot que je vous cite au moins le verset. Et une Maseret Brachot. Hein? N'importe où en bas. Bon, il y en a une. Très bien, le rappel, je vais vous citer le verset. Et alors, vous entendez bien cela? L'étonnement au moment où les Hébreux reçoivent les mitzvot de la Parashat HaChodesh, le chapitre 12. Okay? Oui, c'est Brachot. Vous allez faire le Pessah de la sortie. On sort du monde ancien d'Égypte et on rentre dans le monde nouveau. Et jusque-là, il n'y avait que des familles. La nation va se constituer à travers le rite du sacrifice pascal, comme on dit en français. Vous vous rappelez des premières mitzvot? Les familles devaient se grouper autour d'une table de l'agneau. Vous vous rappelez de cela? Ish lefi ochlo tachosu alase. Et c'est ainsi que les sedarim, encore aujourd'hui, se constituent en havura, en hevra. C'est-à-dire celui qui a commencé un seder dans une famille doit le terminer dans cette famille. On ne change pas de hevra. Vous connaissez, vous avez appris tous ces dinim. Bon. C'est-à-dire que c'était la constitution de l'identité nationale qui s'est faite par l'identification de chaque individu par famille et le rassemblement de toutes les familles en nation. Et puis, tout de suite, ils entendent et vous aurez à refaire ça chaque année. Alors, quelque chose qui apparaît là, qui est très important, ça veut dire que cette génération de la sortie d'Égypte savait qu'elle était un point de départ d'une histoire, point de départ irréversible, mais d'une histoire qui avait pour objet d'achever ce point de départ et d'arriver au Pessah de la fin des temps. Et vous voyez à quel point la pratique de Pessah a été la ligne de permanence du peuple juif. C'est à travers la pratique de Pessah qu'on est arrivé au rendez-vous de la fin des temps. Bon, attendez, je voudrais terminer là-dessus. Et ça a énormément d'implications. Ça veut dire que cette nation qui se constitue au point de départ de la sortie d'Égypte, eh bien, elle savait en elle-même que ce n'est qu'un commencement. Ça vous explique pourquoi, tellement souvent, dans beaucoup d'étapes de cette histoire, il y a eu des découragements. Mais je vais en tout cas vous l'indiquer dans le verset lui-même, puisque vous l'avez étudié. « Achodesh azelachem rosh chodashim » Indépendamment du pshat, ça veut dire « Ce chidouche qui se passe là, à la sortie d'Égypte, sera pour vous le commencement d'autres chidouchim. » Il y en aura d'autres. Vous voyez ? Ce n'est pas le pshat pour la halakha. Pour la halakha, nous apprenons de ce verset que c'est la pleine lune du printemps qui sera la première de l'année. Okay? Le premier Rosh Chodesh sera celui de Nissan et plus celui de Tishri. Mais du point de vue même du verset, « Achodesh azelachem Rosh Chodashim » on est averti que c'est le point de départ, le commencement d'une série de chidushim de ce genre. Et qu'il est nécessaire de s'identifier dans ce commencement pour savoir s'y reconnaître quand les événements reviendront. Vous voyez la fonction du Zecher. Et donc, il y a un étonnement absolu qu'il va falloir expliquer aux enfants, qu'il va falloir commémorer cela, et que le rite principal de la commémoration, c'est cette explication aux enfants « Veigata lebincha ». Vous voyez ? Alors je vais isoler cela, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps cette semaine, mais on reprendra ça la semaine prochaine avec les autres. C'est que la Torah prévoit que les enfants interrogeront. Je vais essayer d'analyser cela à un niveau un peu pédagogique général d'abord, et ensuite revenir au rite. Il faut pas croire que lorsque les enfants interpellent leurs parents, il y a de la part des enfants de la révolte ou de la mauvaise volonté. Je ne sais pas, je cherche un mot plus précis, mais vous comprenez l'idée. La Torah prévoit que c'est normal. Non seulement que c'est normal, mais qu'il faut. Et d'ailleurs, si l'enfant ne sait pas interroger, on lui apprend à interroger. Vous vous rappelez le quatrième enfant ? Bon. Pourquoi ? Là, un d'entre vous a dit ce qu'il fallait tout à l'heure, mais je voudrais le remettre à sa place maintenant. Un ou une, d'ailleurs, je ne sais plus. C'est que la génération suivante n'a pas assisté à l'événement. Et si je ne lui explique pas, elle ne saura pas de quoi il s'agit. Mais qui doit expliquer ? Celui qui a assisté. Je pense que c'est clair. Parce qu'un événement historique, ça ne se reconstitue pas ni par l'imagination ni par la raison. Une tradition basée sur des événements historiques n'a pour base que la mémoire, Zecher, la mémoire dans le sens de Zecher. On ne peut pas réinventer le judaïsme. Pourquoi ? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et ni l'imagination ni la raison ne peut réinventer ce qui s'est passé. Et donc, l'importance, c'est l'enchaînement des générations. Et vous allez retrouver ce qu'a dit Abraham tout à l'heure aussi. Chacun doit se considérer comme étant lui-même sorti d'Égypte. Parce que finalement, il n'y a qu'une génération qui a assisté. Et toutes les autres, jusqu'à la fin des temps de l'exil, où il faudra se réidentifier aux mêmes événements. En réalité, non. Si la génération qui a assisté a raconté, elle, à la génération de ses enfants, la génération de ses enfants, lorsqu'elle racontera à ses propres enfants, c'est la même chose, comme si c'était elle qui était sortie d'Égypte. Il faut raconter, pas encore une fois comme une mémoire d'un souvenir que je renvoie au passé. Il faut raconter à la manière dont raconte celui qui est vraiment sorti d'Égypte lui-même. Vous voyez quel est le sens de ce problème ? Est-ce que c'est clair ? Alors vous voyez que si ça se coupe d'une génération à l'autre, c'est fini, c'est coupé. On ne peut pas réinventer, réimaginer. Ça y est, c'est clair ? Et alors effectivement, la génération qui nous a raconté à nous, c'était celle qui était sortie d'Égypte, puisqu'elle tenait ce récit de celle qui était sortie d'Égypte. Mais de père en fils, ce n'est pas une histoire de deux livres et de... Il s'agit de l'histoire d'une nation, il ne s'agit pas de l'histoire des idées. Voilà. Est-ce que c'est clair ? Voilà le problème. Mais vous voyez à quel point on a traversé le temps avec le Zecher. Si c'était que le 14 juillet, eh bien, on serait encore enrhumé. Bon, vous avez compris le problème. Et alors, je reviens donc à cette question. Il est absolument nécessaire de savoir que c'est normal que l'enfant interpelle la génération précédente. Je vous citais un chidouche qui vient de la yeshiva du Rav Kook à ce sujet, et que lorsque l'enfant, je dirais autrement, de la même manière qu'il y a quatre sortes d'enfants, il y a aussi quatre sortes de parents. Les quatre enfants, c'est le Hacham, le Rachar, ça vous fait sourire? Vous avez entendu ça déjà? Top. Bon, c'est vrai, j'explique. Le Hacham, le Rachar, le Tam, le Sheno, Yodé Alisho. Il y a aussi un père Hacham, un père Rachar, un père Stam, et un Sheno Yodéar, disons, le Lamed. Il y a aussi des parents qui ne savent pas fonctionner comme parents. De la même manière qu'il y a des enfants qui ne savent pas fonctionner comme moi. Dans notre problème, le rôle de l'enfant, c'est d'interroger. Le rôle du père, c'est de répondre. Vous comprenez? Donc, ça se correspond de façon parallèle. Et alors, il y a ici un problème extrêmement important. C'est que la question de l'enfance, ça porte sur le sens de sa vie, sur le sens de sa destinée. Quand je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails, qu'est-ce que l'enfant demande? De quoi il s'agit? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous me demandez de faire? Vous voyez? Alors, les parents doivent répondre en prenant la question au sérieux, parce que c'est vrai que l'enfant, prenant conscience qu'il est juif, ça veut dire qu'il est inséré dans une histoire très particulière, demande de quoi il s'agit, et à qui il va demander, c'est pas son père. Vous comprenez le problème? Et si le père ne répond pas, il y a une catastrophe et il y a la révolte des enfants. Et alors le Rav Kook expliquait ça comme ça. Vous avez compris l'idée générale. Veikata lebincha, la Torah prévoit. Ça veut dire, il faudra que tu expliques à ton fils. Ne crois pas qu'il va naître avec cette connaissance-là. Puisque c'est un événement d'histoire. Et celui qui n'en a pas eu l'expérience ne va pas savoir de quoi il s'agit. Alors il faut le raconter. Mais vous voyez l'utilisation de ce principe en pédagogie, d'une façon générale. Okay? Bon. Alors, le Rav Kook expliquait ça comme ça. Quand l'enfant demande « Mazot, qu'est-ce que j'ai à faire pour être juif ?» Les parents, en général, se trompent de réponse. Et ils répondent « Ben, toi, tu seras avocat, toi, tu seras ingénieur, toi, tu feras des études comme ça, et toi, tu... » Alors, ce n'était pas du tout le sens de la question. Vous avez compris? D'où révolte. Voilà, vous avez compris l'importance du problème. Bien, alors je reviens à la question de... Tu t'appelles toujours Laetitia. C'est pas gentil. Oui. Et est-ce que tu l'as entendu cette question? Est-ce qu'elle s'est posée à toi spontanément? On te l'a posé, on t'a demandé de me la poser. Et je vais vous dire, indépendamment de toutes les études qu'on a pour préparer la nuit de Pessah, c'est une mitzvah de poser des questions nouvelles au Seder de Pessah. Alors on invente aussi des questions. Alors c'est une des questions classiques du Seder de Pessah où on demande pourquoi on ne dit pas de bracha. Alors je vous donne deux réponses. La première, c'est qu'on dit une bracha, je vais vous la montrer. Et la deuxième, c'est que il s'agit, si vous voulez, d'une... d'une mitzvah qui n'a pas de shiur. C'est-à-dire d'une mitzvah qui n'a pas de mesure. Pour chaque mitzvah... Pour chaque mitzvah, nous avons une mesure de la mitzvah à partir de laquelle la mitzvah est accomplie. Et alors, si je dis une bracha pour un acte que je vais faire et que cet acte correspond dans son accomplissement à la bracha, alors la bracha est authentique. Sinon, c'est une bracha les batala. Ça veut dire j'ai dit une bracha pour rien parce que j'ai peut-être pas fait ce que la bracha disait que j'allais faire. Vous suivez? Comme c'est une mitzvah qui n'a pas de chiour, qui n'a pas de mesure, puisque vous avez déjà peut-être vu dans le texte, Kol Amarvel et Saper Bitsiat Mitzrayim Arezem Shubar. Ça veut dire, tout celui qui ajoute à parler de la sortie d'Égypte, on le félicite d'autant plus. Ça veut dire, il y a un chiour le matin, la mesure minimum, c'est la lecture de ce texte, de l'Agada. Mais chiour le marla, il n'y a pas de chiour. Vous comprenez? À partir de quand je sais que j'ai accompli la mitzvah? C'est clair? Et par conséquent, puisqu'il n'y a pas de chiour, on ne peut pas dire une bracha. La bracha devrait être Asher ki deshanu bemitzvota betzivanu. Et où est le verset? Veigata lebincha. Sheneema veigata lebincha. Mais ce veigata est une mitzvah qui implique une difficulté. Parce que nous avons un grand principe dans les brachot, que dire une bracha lebatala, c'est très grave. Vous comprenez que ça veut dire bracha lebatala, batal, pour rien. Okay? Bracha lebatala, c'est très grave. Alors on risque de dire une bracha lebatala. Ça, c'est la première réponse. Ça va jusque-là? Bon. Alors il y a une deuxième réponse. C'est que de toutes les façons, quand je vais parler de la sortie d'Égypte, je parle de la Torah. C'est Dibre Torah. Okay? Or, tous les matins, je dis la bracha sur les Dibre Torah. Donc je suis déjà yotzé par la bracha du matin. Et effectivement, la bracha le matin, ce n'est pas de dire la Torah. Parce que quand est-ce que j'ai fini de la dire? Donc je ne pourrais pas faire une bracha comme ça. C'est la asok vedibre Torah. De m'occuper de paroles de la Torah. Un peu, beaucoup, chacun son niveau. Okay? Et donc, une deuxième réponse, c'est que toute la Agada de Pessah, c'est dibre Torah. Par conséquent, ça rentre dans la bracha qu'on a fait chaque jour. Okay? Bon. Maintenant, ceci dit, il y a quand même... malgré tout quelque chose de plus précis, c'est en général la réponse classique à la question dans la Haggadah. Vous allez prendre un Baruch HaMakom Baruch Hu. Alors, qui veut lire? Qui veut lire? Nous?
Baruch HaMakom, Baruch Hu.
Plus fort, hein.
Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'Amo Yisrael, Baruch Hu, Keneged Arbaha Bani, Divra Torah.
Divra Torah. Ben voilà, vous avez votre réponse. Traduit. Soit loué. C'est ni soit ni loué. Et vous avez déjà appris ça avec moi. Nahon. Oui, c'est un mot pour dire celui qui nous a donné la Torah. L'endroit où nous avons reçu la Torah, et ce n'est pas le Sinaï, c'est Tzion. Makom, c'est Yerushalayim, toujours. Mitzvot ben Adam la Makom, c'est clair. Et Baruch HaMakom Baruch Hu, béni il est. Il n'y a pas Baruch Hihé.
Qui a donné la Torah,
le
peuple
d'Israël, béni, il est. Et c'est par rapport à quatre enfants que la Torah a parlé. Et là, vous aurez à voir les quatre versets qui correspondent aux quatre sortes d'enfants. Okay? Mais je pensais que vous les avez étudiés. Keneged, par rapport à. Keneged. Non, non, ici, c'est, le sens est très précis. Keneged, c'est en pensant à quatre sortes d'enfants. Keneged, par rapport à... Alors oui, c'est là qu'on dit la bracha. Okay? Baruch HaMakom Baruch Hu, c'est la bracha sur la Haggadah. Et vous avez compris pourquoi on ne dit pas Asher ki deshanu bemitzvota betzivanu, parce que deux choses, ou bien c'est une mitzvah qui n'a pas de shiur, et on risque de dire une bracha lebatala, ou bien c'est Dibre Torah, on a déjà dit la bracha sur les Dibre Torah. Okay? Mais ceci dit, dans une formule différente, on va introduire le fait qu'on va expliquer aux enfants, il y a quatre sortes d'enfants, on commence par dire Baruch, Shenatan, Torah, le Amo Israël, Baruch. Allez, c'est clair? Pardon, hein?
Est-ce que c'est le début de l'Agada?
Oui, c'est le début de l'Agada dans le sens de l'explication aux enfants.
Alors, les questions d'avant, c'est pas le début.
Non, les questions d'avant, c'est, et c'est ce qui va mettre en place la mitzvah d'expliquer aux enfants.
Même si c'est déjà l'enfant qui pose la
question. Baruch, et d'ailleurs, s'il n'y a pas d'enfant, on se pose la question entre adultes, je ne sais pas. Bien, voilà donc pour le premier principe. Donc, je voudrais vous dire ça très rapidement, je vais vous donner la référence. Puis je pense qu'il faudra qu'on fasse ce texte quand même. Même si ce n'est pas cette semaine, puisque on a peu de temps, on le fera quand même peut-être. Alors c'est, si je me souviens bien, à la fin du Perek Rishon, oui. Voilà, nous avons une Mishnah ici, c'est la dernière Mishnah de la fin du Perek Rishon, donc c'est la page 12b, Yud Bet Bet, dans Brachot, la fin du premier chef. Yud Bet Bet. Qui dit, Amar Rabbi Lazar ben Azaria, Rabbi Lazar ben Azaria avait dit, vous avez rencontré cette Mishnah? Bon, ça... trouvez-le dans au début de la Gada. Rabbi Lazar ben Azaria disait Are Anik ben Shivim Shana. Je suis comme si j'étais âgé de 70 ans. Nahon. Non, là, on l'a, pour des raisons que je ne vais pas expliquer maintenant, on l'avait nommé chef du Sanhedrin. Et donc, il a la sagesse de l'âge de 70 ans, qui est le Zaken. Top. Il dit, ça veut dire, grosso modo, pour notre sujet, bon, je suis à la tête du Sanhedrin, et je n'ai pas encore réussi à établir que la référence à la sortie d'Égypte se dit aussi la nuit, et pas seulement le matin. À propos d'un autre verset, les ma'an tiskor et yom setecha meret mitzrayim kol yemei chayecha. Vous vous rappelez de cela? Bon. Et ad shederasha ben Zoma, jusqu'à ce que ben Zoma l'a expliqué en disant, eh bien, qu'est-ce que dit le verset? Les ma'an tiskor, afin que tu fasses le zecher, que tu te souviennes, mais pas dans le sens vide du terme, mais que tu commémores. Et ici, il s'agit pas du tout de la mitzvah du seder de Pessah, il s'agit de la mitzvah du kriyat shema, et que le matin, on lisait la troisième paracha du kriyat shema, mais pas le soir. Ensuite, on a institué, depuis l'exil, de la lire même le soir. Parce que c'est dans la troisième paracha de Kriyat Shema qu'il y a la mention de la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez de cela? Et donc il fallait établir qu'on fasse la mention de la sortie d'Égypte aussi le soir et pas seulement le matin. Pour le matin, c'est évident, la sortie d'Égypte a eu lieu à minuit. Donc au matin, on est situé dans un temps où la sortie d'Égypte est derrière. Tandis que le soir, c'est pas évident, parce que la sortie d'Égypte peut-être elle aura pas lieu. Comment je peux me référer à la sortie d'Égypte le soir? Cette question-là, on l'étudiera à propos du Kriyat Shema. Okay. Et seulement, Ben Zoma explique, qu'est-ce que dit le verset? Les ma'an tiskor et yom setecha meret mitzrayim kol yemei chayecha. Afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte tous les jours de ta vie. Le problème ici est très simple. Les jours de ta vie et tous les jours de ta vie, c'est la même chose. Alors qu'est-ce que ce tous les jours de ta vie vient ajouter? C'est donc la partie du jour qui n'est pas le jour, mais qui est quand même le jour, c'est-à-dire la nuit. Par conséquent, si le verset avait dit « Afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte les jours de ta nuit », c'est tous les jours et que les jours. Mais tous les jours de ta nuit, c'est les jours et plus encore, c'est-à-dire les nuits. Et c'est clair? Bon. Et c'est ce que dit donc la Mishnah. « Yemei chayecha hayamim » S'il y avait écrit « Les jours de ta vie, c'est les jours »« Kol yemei chayecha halelot » Tous les jours de ta vie, c'est les nuits aussi. Alors que, tout de suite, on se demande, et une explication si simple, le chef du Sanhedrin n'arrivait pas à l'établir, il a fallu attendre Ben Zoma. Et Ben Zoma était très jeune, puisqu'il n'en appelle pas encore par son nom, il s'appelait Shimon. parce que c'est sûr. Mettez ça en point d'interrogation. Mais... C'est-à-dire, il était encore avant la bar mitzvah, il n'avait pas la smicha, on l'appelait le fils de son père, Benzoma, okay, un petit enfant de Talmud Torah. Et ça, les haramim du Sanhedrin n'arrivaient pas à le comprendre par eux-mêmes. En réalité, oui. Seulement, comme ils avaient une autre tradition très importante, et que le principe, c'est qu'on ne fait pas dire à la même expression d'un verset deux choses différentes. C'est ou l'un ou l'autre. Quand on en a besoin pour la halakha, bien que pour la signification, il y a toutes les lectures que nous avons, mais pour la halakha, si je me base sur une particularité du verset pour une chose, je n'ai pas le droit de m'en servir pour aussi autre chose. Est-ce que c'est clair? Et alors, les haramim avaient une tradition importante. Ils disaient, Yemechayecha, les jours de ta vie, c'est ce monde-ci, Arolamazé. Ce monde-ci, ça veut dire jusqu'à l'arrivée du Messie. Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie, les Avi, les Motamashiach, pour inclure aussi les temps messianiques. Et ça veut dire quoi, selon les haramim? Que le verset de la sortie d'Égypte prévoyait que non seulement on commémorerait Pessah jusqu'à la fin des temps de l'exil, mais aussi au temps du Messie. Ça, d'après les haramim. Et par conséquent, cette consigne...